Alors, un chiffre qui interpelle, tiré du baromètre Septéo 2025, 93% des professionnels de la formation pensent utiliser l'IA. C'est quasi tout le monde.
Oui, c'est énorme.
Mais, et c'est là le hic, 68%, donc plus des deux tiers, disent en même temps ne pas se sentir assez formés pour s'y mettre. Un sacré décalage, non ?
Tout à fait.
Ça illustre bien une tension, en fait. L'envie est là, la techno est là, mais le mode d'emploi, il manque un peu pour beaucoup de monde. L'IA, c'est plus, comment dire, marginal. C'est vu comme un vrai levier stratégique même. Mais bon, comment s'y retrouver dans cette multiplication d'outils, surtout avec les exigences qualité, genre Calliope, ou la protection des données, le RGPD?
C'est clair. Et c'est justement là qu'intervient la ressource qu'on explore aujourd'hui, le guide des 111 outils IA. Il est pensé spécifiquement pour eux, pour ces professionnels.
Exactement.
On va regarder un peu ce qu'il y a dedans, comment il est fait, et puis surtout, quelle vision de l'IA pour la formation il propose. L'ambition affichée, c'est d'être une sorte de boussole.
Claire, pragmatique et 100% tournée vers la performance pédagogique.
C'est ça. Et le point de départ de ce guide, son postulat de base, si on veut, c'est qu'une idée forte. L'IA ne remplace pas le formateur.
Ah, important ça.
Oui, crucial même. Elle augmente ses capacités. On n'est pas dans la substitution, mais dans l'augmentation. C'est une perspective fondamentale. Ça suggère que le métier change, évolue, qu'il faut peut-être acquérir de nouvelles compétences pour piloter ces nouveaux outils, augmenter les capacités. D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi? Quel genre de bénéfices le guide met en avant?
Mais plusieurs choses très pratiques, en fait. D'abord, le gain de temps. Énormément sur les tâches un peu répétitives, générer des résumés, créer une première base de geek quiz, aider à structurer un cours, la scénarisation. Ensuite, créer des contenus peut-être plus vivants, plus engageants. Je pense par exemple aux voix off de synthèse qui sont devenues assez bluffantes, ou même des avatars animés pour certains modules.
Ah oui, j'ai vu ça.
Voilà. L'idée, c'est aussi de pouvoir personnaliser davantage les parcours, de rendre l'expérience plus interactive pour l'apprenant. On parle même d'industrialiser certaines productions, mais sans tomber dans le contenu générique, sans âme, garder la pertinence.
D'accord.
Et le but final, souvent, c'est de libérer du temps humain qualifié, pour se concentrer sur ce qui a le plus de valeur. L'accompagnement personnalisé, le feedback.
Et ça, ça colle bien avec ce que dit le baromètre Septéo sur les motivations, non ? L'optimisation des processus arrive en tête, mais juste derrière, c'est l'amélioration de l'expérience apprenant qui est citée comme prioritaire.
Exactement.
La réduction des coûts, elle, semble un peu moins centrale. Ça tendrait à confirmer cette vision d'un investissement pour la qualité plutôt qu'une simple coupe budgétaire.
Oui, c'est plutôt vu comme un moyen d'améliorer l'efficacité pédagogique, l'impact, plus que comme une simple machine à réduire les coûts. C'est intéressant.
D'accord. Bon, on voit bien le pourquoi de ce guide. Maintenant, comment il est fait pour être vraiment opérationnel ? Parce que 111 outils, ça peut faire un peu peur, non ? On peut se sentir submergé.
Oui, c'est vrai. Le nombre peut impressionner au début. Mais l'approche se veut curée, structurée et contextualisée. L'idée, c'est pas de faire une liste brute, mais vraiment d'aider à choisir, vite et bien, si possible.
Et ça se traduit comment concrètement dans le guide ?
Alors, chaque outil a sa fiche, une fiche standardisée. C'est ça la clé, je pense. On y trouve sa fonction principale, bien sûr, mais aussi des cas d'usage très précis pour la formation. Pas juste une description générale, quoi.
Ok.
Il y a aussi des recommandations selon le profil de l'utilisateur. Formateur indépendant, un organisme qui doit être certifié Calliope, une PME, une université ou un CFA. Avec une petite note, des étoiles, pour voir la pertinence pour chaque cas.
Malin ça.
Oui, et bien sûr, les avantages et les limites. Très important ça, parce qu'aucun outil n'est parfait. Plus les infos pratiques. Est-ce que c'est conforme RGPD ? Quelle langue c'est dispo ? Le prix évidemment. Et surtout, un indicateur de niveau de maîtrise requis, genre débutant, intermédiaire ou avancé, ça évite de se jeter sur un truc trop compliqué au début.
Oui, c'est bien pensé, ça permet de filtrer direct selon ses besoins et son niveau. Et ça couvre quel type d'outils alors ?
C'est assez large. Il y a des outils pour faire des cartes mentales, des mind maps, d'autres pour générer carrément des modules de cours entiers, des spécialistes pour créer des quiz, des exercices interactifs. Il y a aussi des générateurs de vidéos, des outils pour créer des voix off ou des avatars, comme on disait, des chatbots pour répondre aux questions fréquentes. Vraiment de quoi couvrir pas mal d'étapes du processus pédagogique.
D'accord.
Et un point important, le guide est présenté comme évolutif Il est mis à jour régulièrement avec les nouveautés et les retours du terrain.
Ok, super. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples pour que ce soit plus parlant? Pour gagner du temps sur l'évaluation, par exemple, vous disiez...
Oui, alors le guide mentionne des outils comme Yipiti ou Quiz Wizard. Le principe est assez simple. On leur donne du texte, ça peut être un cours, un article, même une page web, et paf, ils génèrent automatiquement des propositions de QCM, de flashcards. C'est une base, hein, faut vérifier, adapter, mais ça peut faire gagner un temps fou.
Ah oui, j'imagine. Et pour rendre les contenus plus vivants, moins plats?
Alors là, on peut penser à des outils comme Eleven Labs ou Murphy AI, par exemple. Ils permettent de créer des voix off synthétiques avec un réalisme assez étonnant aujourd'hui, et dans plein de langues. On est loin des voix robotiques un peu soporifiques qu'on a pu connaître. Hein.
C'est vrai.
Pour un module e-learning, ça change vraiment la perception, l'engagement.
On sent bien que l'IA prend de plus en plus de place. D'ailleurs, le baromètre Septoléo le dit. Pour 81% des professionnels, la présence de fonctionnalités IA, ça influence déjà le choix des futurs logiciels, comme les plateformes LMS.
C'est clair, ça devient un critère de choix. Mais attention, hein, les défis sont réels. Une autre source, le baromètre Lefebvre Dalloz, le souligne bien. Il y a encore un manque de compréhension de ce qu'est vraiment l'IA, un manque de compétences techniques pour bien s'en servir.
Mmh.
Parfois une certaine résistance au changement aussi. Et puis le coût, qui peut être vu comme un frein. Ce type de guide, justement, essaie d'adresser ça, en démystifiant un peu et en donnant des pistes concrètes.
Donc si on résume, ce guide se présente comme un point d'entrée très concret, une sorte de catalogue mais intelligent pour aider les pros de la formation à explorer l'IA et à l'intégrer de façon pertinente. Avec l'objectif final d'améliorer l'efficacité, l'engagement et la personnalisation.
C'est tout à fait ça. Mais le guide lui-même conclut sur une note importante, une nuance. Il rappelle que l'IA, aussi puissante soit-elle, elle ne remplacera jamais l'écoute, l'intuition pédagogique, l'émotion. Bref, le cœur humain du métier de formateur.
Heureusement.
Oui. Et l'invitation finale est très claire, j'aime bien la phrase. Ce guide n'est pas une fin en soi. C'est un point de départ. À vous de jouer.
Ce qui nous laisse avec une question ouverte, finalement, pour tout le monde.
Exactement. La question, c'est 1. Comment choisir, tester et surtout, comment intégrer ces outils intelligemment pour devenir ce fameux formateur augmenté, mais sans se laisser déborder par la technologie. C'est ça le vrai enjeu. Et c'est un processus continu. Parce que cette ressource, comme l'IA elle-même, elle évolue tout le temps. Faut rester curieux.